tel, qui est Ecclesia ou Ekkaleo, qui veut dire appelé hors de. Alors, on est une assemblée appelée à l'extérieur de. Et quel réconfort est-ce que l'on trouve quand on est appelé à l'extérieur de quelque chose, quand on se rassemble ensemble et qu'on peut se serrer les coudes et s'encourager mutuellement. Ce soir, on continue les juges. On va continuer avec Gédéon. Je ne sais pas si vous trouvez autant que moi du plaisir et du bonheur à fouiller dans l'Ancien Testament, mais moi, je me délecte à chaque fois et j'espère que c'est votre cas aussi. Je trouve qu'il y a des perles là-dedans. Évidemment, le Nouveau Testament est quelque chose qu'il faut chérir aussi beaucoup puisqu'on trouve les liens, les cordes nécessaires à notre vie chrétienne et pour comprendre cette nouvelle alliance-là. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu et on apprend à le connaître. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir. J'espère que vous en voyez aussi. Et j'aimerais qu'on fasse un mot de prière en commençant. Monsieur l'abbé me disait avant de partir, il est reparti, il avait un malaise, il se sentait pas bien. Et puis peut-être, je pense pas que c'est très grave, mais il avait de mal assez pour ne pas rester. Et puis j'ai dit qu'on prierait pour lui. Il disait que ce matin, il m'informait que ça s'est bien passé à Limoilou. Ouais, peut-être une grippe, il dit qu'il a pris du froid, là, ça a pris dans le dos, puis fait qu'il se sentait mal dans le côté. Peut-être qu'il est affligé par la grippe. Fait qu'on va prier pour lui, puis qu'en même temps, Seigneur nous dirige dans sa parole. Seigneur, on vient devant toi, premièrement, pour t'adorer. T'es un grand Dieu, t'es un Dieu puissant. Tu prends soin de nous en toutes choses, Dieu. Et t'es fidèle, constamment présent. Et Seigneur, on veut vraiment te louer, parce que tu désires te faire connaître à nous. T'as voulu nous venir, nous rejoindre, pour nous parler, pour nous communiquer ta personne, Seigneur, nous communiquer tes œuvres, et en même temps, nous engager avec toi. Nous sauver. Et on veut te dire merci. Seigneur, on veut ouvrir ta parole ce soir et que toi, tu nous parles, que ta parole nous parle et que chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous connais, que ton esprit parle, Seigneur, à ce qu'on a besoin d'entendre de toi pour qu'on puisse transformer nos vies, qu'on puisse appliquer ta parole dans nos vies pour avoir une vie centrée sur toi, une vie dirigée par toi, une vie où ce que toi, Seigneur, tu es l'acteur principal. Seigneur, on veut te prier en même temps pour notre pasteur René, que tu mettes ta main sur lui, que tu renouvelles ses forces, Seigneur, que tu le gardes, que tu le protèges aussi, puis qu'il puisse prendre la semaine qui s'en vient justement pour se reposer et puis revenir ressourcé. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. La dernière fois, on s'était laissé dans Juges 6 et on n'avait pas vu la dernière section de Juges 6. On va voir la fin ce soir. On voyait que Dieu forme des héros. Dieu nous modèle, va nous modeler pour nous transformer en héros. Mais il faut se laisser transformer. Héros et pas selon le modèle que l'on connaît humainement, comme vous avez peut-être entendu parler du film 300. C'est intéressant parce qu'on va parler justement ce soir d'une bataille qu'il y a eu avec 300 hommes. Mais les héros humains sont très, très enorgueillis. Puis les héros que Dieu forme, c'est des hommes et des femmes qui sont très humbles dans la main de Dieu et qui se laissent diriger par lui. Alors Dieu avait confirmé l'appel du héros, avait confirmé l'appel à Gédéon qui lui avait demandé un signe. Dieu a confirmé sa parole par un signe, Dieu l'a fortifié, a fortifié les sentiments de Gédéon. On avait vu aussi que il y a eu un camp d'entraînement pour notre héros, Gédéon, qui était de renverser l'idole de son père, qui était probablement le prêtre. Et Gédéon était parti de nuit, et puis Dieu a éprouvé le courage de son héros. On a vu l'action aussi de Gédéon pendant la nuit qu'il est allé renverser, et puis la réaction du père. On s'était laissé avec ça la dernière fois, que le père lui-même avait dit, ben les gens de la ville s'étaient rendus proches du père, puis il avait dit, c'est ton fils qui a renversé l'autel, et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Puis, fait que là, son père a dit, ben si Baal est vivant, mais qui se venge lui-même. Et puis maintenant, on a appelé Gédéon Jérubaal, qui veut dire ben que Baal se venge lui-même. Alors on se disait que la vie de Gédéon, la vie elle-même de Jérubaal, témoignait de la mort finalement de Baal, l'inexistence de Baal, puisqu'il ne s'est jamais fait justice lui-même. Dieu avait dit une parole à Gédéon quand il s'est approché de lui, puis je vais faire ressortir ces paroles-là encore pour diriger notre étude vers ce vers quoi on va se diriger. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne. C'est drôle, ce matin, j'ai pensé à ça cet après-midi. Je pensais, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant que je faisais les annonces ce matin, je cherchais Gaétan. Gaétan, t'es où? Et puis, il était là, juste à côté de moi, puis je le voyais pas. Des fois, dans nos malheurs, dans nos épreuves, dans notre empressement, parce qu'on est stressé un peu, Dieu, t'es où? On dirait que t'es plus là. Puis Gédéon était, mais il est où Dieu s'il n'est plus là? Ben, si ça se passe mal de même, ben, il est là. Il est là, il est à côté de moi. Mais des fois, on a besoin de, oups, on va regarder plus près de nous. Puis Dieu, il est tout près de nous. Et c'était le cas de Gédéon. Dieu était juste à côté de lui. Et Dieu lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et il lui a dit, va avec la force que tu as, puis moi je vais t'accompagner. Gédéon n'avait pas beaucoup de force. C'était un faible homme, le plus petit de la famille, famille pauvre. Puis Dieu lui a dit, va avec ce que tu as, puis je m'occupe du reste. Dieu nous dit la même chose dans notre vie chrétienne. Dieu nous dit la même chose aussi pour nous former, pour nous faire devenir des héros de la foi. Ce que Dieu m'a dit, va avec ce que tu as. Puis moi, je vais te donner ma force, je vais te donner ma puissance. Et moins on en a, plus Dieu en donne. Et Paul a fini que par comprendre ça. Plus tard, on va le lire dans 2 Corinthiens 12. J'aimerais que vous m'expliquiez, avant qu'on... Vous avez peut-être déjà tourné dans le juge. On va lire le juge 6 à partir du verset 33 à 40. Juste avant qu'on le lise, expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire. Vous connaissez peut-être ce verset-là. On vous l'avait entendu quelques fois. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce que... Parce qu'il se confie en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que croyant? Comment ce passage-là, pour moi... est un moyen de m'accrocher justement à Dieu. Oui. Oui. Il veut qu'on dépende de lui, qu'on s'accroche à lui. Oui. Des fois, ça demande du courage de prendre position, mais quand on le prend, Dieu nous soutient. Oui, Claudette, après ça, c'est là. Ouais. 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 Oui, Céline. Merci, Claudette. De se confier. C'est ça. Parce qu'il se confie en Dieu. Oui, Serge, après ça, on va lire Juge 6. Oui. Vos cœurs et vos pensées. Oui. 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 Alors, je lui confie mes requêtes, je lui confie mes difficultés et je sais qu'il est là. Oui. 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 La paix dans notre relation avec Dieu, elle est importante. Et on l'a vu avec Gédéon la dernière fois, que quand Gédéon avait réalisé que l'ange de l'Éternel, finalement, c'était vraiment l'Éternel qui était là, mais il a eu peur, mais il a quand même fait un autel, Dieu l'a rassuré, et puis il a appelé cet autel-là Dieu, l'Éternel paix, je pense qu'il l'avait appelé comme ça. Et ce qu'il avait découlé justement de sa rencontre avec Dieu, c'était la paix. Gédéon va découvrir la paix à celui qui est ferme, Ésaïe 26,4 que je vous ai cité, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. On a besoin de se confier en Dieu. Gédéon était en apprentissage, il est vraiment en train d'apprendre pas à pas comment placer sa foi en Dieu. Et j'ai besoin de voir où est-ce que j'en suis dans ma foi avec Dieu, où est-ce que j'en suis dans ma marche avec Dieu pour que je continue d'avancer. Que je continue de faire des pas vers l'avant. Et Dieu veut que j'avance, Dieu veut me modeler, Dieu veut m'encourager. Mais j'ai besoin d'être ferme dans mes sentiments aussi en le concernant. J'ai besoin de continuer de me confier en lui. Juge 6, versets 33 à 40. On va y aller 33 à 35 premièrement. Quelqu'un qui voudrait lire ça? OK, Danny. OK, on arrête là pour l'instant. Déjà, Gédéon, est, après que son père avait dit, ben maintenant, son nom sera Jérubal. Alors, Gédéon, il part immédiatement, verset 33, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain, puis ont campé dans la vallée de Jisréel. Puis Gédéon, qu'est-ce qui se passe avec Gédéon à ce moment-là? Il est revêtu de l'esprit. Qu'est-ce que ça lui donne comme avantage à Gédéon que d'être revêtu de l'esprit? Revêtu de l'esprit? Quel avantage est-ce que ça lui donne? C'est intéressant parce que ce matin, on parlait justement de l'esprit qui nous accompagne. L'esprit qui est dirigé par l'esprit. Comment t'as dit, Normand? OK, comme une armure. Une armure. Dieu étant l'armure lui-même, dans ce cas-là. Oui, OK. J'ai vu une autre main levée. C'est-tu Renal? Ouais. Ouais. Alors, il avait une communion vraiment très près de l'Éternel qui pouvait lui parler, qui pouvait l'accompagner. Et c'est l'accomplissement aussi de ce que Dieu avait dit. Dieu n'a pas échappé à ce qu'il lui a dit. Va avec la force que tu as, puis oups, j'ai oublié de t'accompagner. Mais non, Dieu, il est là. Puis de pas à pas, Dieu confirme sa parole. On voit les proches de Gédéon qui semblent retourner vers lui, qui ne le condamnent pas tout de suite. Et là, on voit que l'Esprit de l'Éternel est avec lui, qu'il l'accompagne. Et quand Gédéon, ben, il s'avance, on voit que c'est, oui, Gédéon est un homme, mais petit, pas nécessairement beaucoup de force. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais les gens le suivent. Il va sonner. J'avais une autre question pour vous. Comment le courage de Gédéon a manifestement augmenté? Le courage de Gédéon était beaucoup plus faible que ça, il y a quelques temps. Comment son courage, on voit qu'il a manifestement augmenté? Oui. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, mais son courage a augmenté, ce qui va l'amener aussi à opérer ces diminutions d'effectifs-là. Mais non, mais c'est correct. Comment son courage a augmenté? En quoi est-ce que son courage a augmenté? Gédéon avait peur la première fois que Dieu l'avait abordé. Ben voyons donc, moi, Dieu, le plus petit, j'ai pas la capacité de faire ça. Et maintenant, on le voit, regardez verset 34, Gédéon fut revêtu de l'esprit. De l'Éternel, et sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour la marche à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazar, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon est maintenant rendu un leader, et rendu lui-même maintenant celui qui sonne la trompette pour convoquer les différentes tribus, pour marcher à sa suite, pour aller à l'attaque. Alors évidemment, le courage de Gédéon a augmenté, et Dieu lui continuait d'affermir ses pas, continuait de l'accompagner, évidemment. Et alors Gédéon, il rallie les tribus. Gédéon, il a fini son camp d'entraînement, si je peux dire, mais il est vraiment entre deux périodes où il s'en va finalement à la guerre. Et puis on va voir un petit épisode intermède où ce que justement, juste avant la guerre, il a besoin d'un petit boost avant de partir. Mais on va continuer verset 36 à 40. Un autre volontaire? Oui, vas-y Danny, merci. OK. Bon. Il y a beaucoup de questions sur ce passage-là, des choses intéressantes à découvrir. Je vais essayer de pas trop patiner, puis je vais plus lire mes notes. Mais je veux quand même vous poser les questions. Comment est-ce que vous voyez Gédéon là-dedans? Pourquoi, une fois tous rassemblés, Gédéon est parti, il est allé chercher les tribus, plein de gens sont à sa suite, et là, Gédéon, il se retire, puis là, verset 36, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, ben, je vais mettre une toison de laine, et puis si la toison seule soit couverte de rosée, puis que le reste soit sec, alors ça va me montrer que vraiment c'est ta volonté. » Pourquoi est-ce que Gédéon demande un signe? Il a peur. Il a peur. Oui, Jean-Pierre? Ouais. Il voulait être certain de faire la volonté de Dieu. J'ai eu ce questionnement-là aussi, puis je vois dans, par exemple, Josué, vous vous souvenez, j'en avais cité un exemple, à un moment donné, quand les Gabaonites sont venus le rencontrer, Josué n'a pas consulté l'Éternel. Et puis, en faisant ça, il a manqué, évidemment, en faisant une alliance avec les Gabaonites. Est-ce que c'est un moyen pour Gédéon que de consulter Dieu pour me dire, « Donne-moi vraiment une dernière révélation, ta révélation, pour que vraiment, on s'en va à la guerre, là, puis confirme-moi-le. » Pour lui, est-ce que c'est un moyen de consulter l'Éternel? Peut-être, mais ça nous pose problème quand on arrive à la deuxième requête, par exemple. Parce que là, Gédéon, il sait lui-même, parce que Dieu ne met pas en colère. Là. Verset 39, Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi. » Mais maintenant, je te demande l'inverse. Oui, M. Dumont. Ah, oh, ouais. Ben. Ouais. Dieu s'est laissé tester. Je vais reposer une question dans deux minutes sur cette chose-là. Oui, Claudette? Oui. Ouais. Ouais. Il met Dieu à l'épreuve. OK. Est-ce que... OK. Oui, Serge? Ouais. Mais je ne rejette pas complètement l'hypothèse parce qu'on voit justement avec Josué un élément semblable que Dieu, j'oublie la formulation exacte, mais que Dieu a élevé Josué aux yeux du peuple pour montrer son autorité comme étant chef aussi. Est-ce que Dieu, ben, on ne voit pas qu'il y ait des témoins, comme tu dis. Est-ce que c'est une possibilité? C'est peut-être pas à rejeter non plus. Oui, Yvan. Ouais. 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 C'est ça. Alors que Dieu lui donne un accompagnement. Évidemment, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance aussi, nous témoigne de révélations qui sont particulières aussi. Il y a de certaines périodes aussi que la parole de Dieu a été révélée, la parole de Dieu a été révélée à plusieurs moments. Et on se trouve dans une période aussi, comme par exemple les sacrificateurs qui tiraient avec les deux pierres pour trouver quelle était la volonté de Dieu. C'est un moyen qu'on voit dans l'Ancienne Alliance, qu'on ne trouve plus dans la Nouvelle Alliance, dépassé très tôt dans la Nouvelle Alliance. Et puis, alors, la toison, est-ce que c'était une façon de consulter l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'il a manqué? Pourquoi est-ce qu'il l'a demandé deux fois? Est-ce que c'était un manque de foi de la part de Gédéon? Oui, M. Dumont? Oui. On voudrait voir pour continuer d'avancer. Gédéon, comme je disais tantôt en commençant, il est vraiment en train de faire des pas dans la foi pour affermir sa foi. À quel moment est-ce que Gédéon, à quelle étape de sa marche dans la foi est-ce qu'il était? Personnellement, j'aurais tendance à interpréter cet épisode-là comme il avait encore des pas devant lui à faire pour avoir une foi. Et je crois fermement, parce qu'en fait, on va voir par la suite de l'histoire tantôt, que Dieu donne une autre révélation, puis Gédéon ne demande pas de signe. Puis Gédéon, il adore, à ce moment-là, on va le voir tantôt, quand il voit le pain d'orge, là, il entend l'histoire, là, tout de suite, il entend ça, puis il croit, puis il en est sûr, puis il s'en va avertir son camp. Je crois que Gédéon fait des pas qui avancent comme ça dans la foi. Et on revient à la question tantôt qu'on dit, qu'est-ce que ça nous révèle du caractère de Dieu, cet événement-là avec Gédéon? Qu'est-ce que je vois du caractère de Dieu? Qu'est-ce que j'apprends de lui encore plus dans ce contexte-là? Oui, Normand. Oui, c'est ça. Gédéon a fait des pas dans la foi et... Oui. Est-ce que ça justifie le même agissement pour moi aujourd'hui? Est-ce que je vais mettre Dieu constamment comme ça à l'épreuve dans ma vie pour être sûr de ce que Dieu veut de moi? Est-ce que je vais réquisitionner dans un sens la condescendance de Dieu à chaque instant pour voir? Comprenez-vous ma question? Oui, Jean-Pierre. Oui. Aujourd'hui, on a sa parole. Est-ce que Dieu pourrait le faire quand même? Oui. Mais Thomas... Oui. Ouais. Et c'est ça. Et la porte est large aussi. On pourrait dire. Ce que je veux dire, c'est que la porte est large dans l'application, dans l'interprétation de ce que l'on va dire. Je crois fermement que la parole de Dieu devient une occasion de révélation de la volonté de Dieu pour ma vie. Mais je te laisse la parole, Paul, et après ça, on continue d'avancer. Ouais. Ouais. De manière évidente. Et moi, comme tu dis, ça révèle à la personne de Dieu qu'il désire faire connaître sa volonté. Oui, et... C'est ça. Oui. Et Dieu veut faire connaître sa volonté. C'est ça. On peut pas tenter Dieu. Oui. Et Dieu nous aime à un point. Je donnais cet exemple-là hier. On a une bergerie d'évangélisation aux deux samedis. Puis je donnais l'illustration que Dieu est venu nous rejoindre. Dieu, comme moi, j'ai un enfant de 1 an et 3 mois, et mon enfant ne sera pas capable de prendre ma grandeur pour venir me parler face à face avec le raisonnement que j'ai. Mais moi, j'ai la capacité de mettre un genou par terre puis d'aller communiquer avec lui, par exemple. Et ça, c'est la condescendance de Dieu qui met un genou pour venir me parler et puis pour venir m'apprendre, m'enseigner, me fortifier, m'encourager et me faire grandir aussi. Et l'enfant, ce qu'on veut, c'est qu'il grandisse. Et jamais mon enfant peut devenir plus grand que moi là, un jour, là, mais jamais que nous, on pourrait être grand comme Dieu. Jamais je projeterais la grandeur de Dieu pour avoir une conversation avec lui de Dieu à Dieu. Évidemment, je ne serai jamais Dieu, mais je serai toujours un enfant de Dieu qui aura besoin de son papa qui va venir mettre un genou pour venir lui parler. Et c'est une bonne chose. Et en même temps, ma confiance dans mon père va grandir. Est-ce que tu avais un commentaire, Serge, tu voulais ajouter? Ouais. Absolument. Dieu veut être éprouvé. Dieu avait donné à Gédéon plein de choses pour le former. Dieu avait accepté son sacrifice la première fois. Il lui avait donné l'occasion de témoigner son allégeance. Il avait donné l'occasion de manifester son obéissance. Dieu lui a accordé le soutien de ses proches. Dieu lui a accordé le soutien des tribus d'Israël qui sont là. Puis sa parole, des signes, l'appui des troupes, son esprit, Dieu lui a tout donné pour que Gédéon fasse des pas pour conduire le peuple à la délivrance. En confiant nos faiblesses, comme on disait tantôt, par des prières, des supplications, Dieu nous donne sa paix. La paix qui dépasse toute intelligence. Et ça, c'est, je crois, un signe important que Dieu nous accorde pour connaître aussi sa volonté. Je crois que ça, c'est un signe important. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et je crois que quand on a la paix de Dieu dans nos cœurs, dans une circonstance, dans nos vies, où ce qu'on veut connaître la volonté de Dieu, qu'on a une relation près de Dieu, que Dieu nous donne sa paix, je crois que c'est un signe important. Puis j'accueille tous les commentaires que vous dites, et je comprends ce que vous dites aussi. Puis je ne veux pas lancer de roche à Gédéon. Il est aussi un héros de la foi, cité dans Hébreux 11. Puis je crois que les Écritures nous enseignent un peu différemment quand même de l'exemple de Gédéon en ce qui concerne aussi la mise à l'épreuve. Je crois que Dieu répond aussi, comme on dit, dans « Dieu, donne-moi l'occasion de te connaître » ou « Dieu, donne-moi, comme tu disais tantôt, Serge ». Et en même temps, Dieu l'a fait avec Thomas, ce que j'allais citer tantôt. Et Dieu, Jésus lui a permis de regarder ses mains. Jésus lui a tendu ses mains pour faire grandir la foi en lui, pour affermir sa foi. N'empêche que quand même, Jésus lui a dit « Heureux ceux qui auront cru sans voir ». Jésus lui a montré « Thomas est un apôtre, est un enfant de Dieu, un enfant qui est en train de grandir dans sa foi ». Mais n'empêche que Dieu lui a dit « Heureux ceux qui ont cru sans voir, ceux qui croient ce que je leur dis ». Mais Dieu lui fait faire des pas quand même. Et je crois que c'est la stature que Dieu veut nous amener d'avoir cette confiance-là à lui, une confiance importante. Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve, je suis en train de citer Malachi ». Mettez-moi à l'épreuve de la sorte. Comment est-ce que je mets Dieu à l'épreuve de la sorte? Comment est-ce que je mets Dieu à l'épreuve dans ma vie? Oui. Ouais. En avançant. Pas en allant au-devant de lui, mais je mets Dieu à l'épreuve en avançant. Et là, je vois, c'est un pas de foi. C'est pas nécessairement que je fais tout le chemin déjà, mais Dieu me demande pas à pas. Et de pas à pas, je mets Dieu à l'épreuve comme ça pour voir sur quoi mon pied repose. Et à chaque fois, j'ai l'occasion de constater, quand je fais ce pas de foi-là, que Dieu me soutient, que Dieu m'accompagne. Mais Dieu veut faire grandir notre foi. Dieu veut nous amener du point où ce que l'on est, puis nous amener à grandir. Et je ne tire pas de roche à Gédéon, et j'ai encore des questions sur ça. Comment est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu aujourd'hui dans nos vies? Je crois que la révélation doit, la parole de Dieu doit être au cœur de notre étude pour connaître sa volonté. Et l'Esprit nous accompagne aussi. Et je crois que Dieu, par sa parole, d'une façon souvent claire, nous montre des choses qu'on a à comprendre pour lui dans nos vies. Laisse-moi juste un instant, là, je vais retrouver mes notes. OK. On va continuer d'avancer. Juge 7. Gédéon, comme on a vu, a demandé un signe, deux signes à Dieu. Et Dieu lui a accordé. On voit encore l'amour de Dieu, la condescendance de Dieu, ce désir de faire connaître sa volonté et de soutenir Gédéon et de peut-être aussi de confirmer l'autorité ou l'état de chef de Gédéon aux yeux peut-être des tribus qui sont là. Et là, on va continuer d'avancer dans le texte, dans les versets 1 à 3. Avant, je vais vous poser une autre question avant qu'on lise les versets 1 à 3. Quel était le plus gros problème d'Israël à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il vivait comme problème? Oui. Il était sous l'oppression des ennemis, sous l'oppression des Madianites. Quoi d'autre aussi? Quel était le plus gros problème des Israélites à ce moment-là? Ils avaient abandonné Dieu. Ouais. Leur plus gros problème, c'était l'abandon de la foi. C'est leur plus gros problème. Puis la conséquence de ça, c'est qu'ils avaient justement perdu leur liberté. Ils avaient les Madianites qui étaient là. Et dans le processus qu'on va voir dans le chapitre 7, Dieu va confronter le plus gros problème, qui est l'abandon de la foi. Parce que Dieu, on va voir de par son intervention, qu'il ne va pas tout de suite donner la délivrance, bien, il y a des étapes avant la délivrance pour finalement probablement toucher le cœur du problème qui était l'abandon de la foi. Il veut faire ramener le peuple à la foi, à l'obéissance. Quelqu'un qui voudrait me lire dans Juge 7, les versets 1 à 3. OK, Daniel. OK. 22 000 plus 10 000, ça fait 32 000. C'était les tribus qu'ils avaient ramassées au début. 32 000 hommes. Je vous avais déjà montré, si vous voulez, un petit bout de temps, là, ce carton-là. Le blanc représente les Madianites. Ils étaient 135 000. Quelqu'un qui voudrait me lire le verset 10 au chapitre 8. Oups. 135 000 hommes que les Madianites avaient. Ça représente mon carton blanc. Au début, que Gédéon ramasse les tribus, ramène les tribus derrière lui, en sonnant la trompette, il amène derrière lui 32 000 hommes, qui est mon carton rose, que Dieu, que les gens, des volontaires, se sont ralliés ensemble pour attaquer les Madianites. En fait, Dieu lui a dit, vous êtes trop nombreux, On diminue les effectifs. Comment est-ce qu'on fait le tri? Ceux qui ont peur, qu'ils s'en aillent. OK. Ouais, 22 000 sont partis. Alors, c'est une grande partie. 22 000. Maintenant, il reste 10 000. Il reste 10 000 hommes, qui est l'équivalent de ça, de mon carton mauve ici, comparativement à 135 000 hommes des Madianites. On aurait tendance à dire que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, il me semble, pour attaquer 135 000 hommes. Ça voulait dire. J'ai calculé le ratio ici, là. Au début, ils étaient 1 contre 4 pour les Israélites, puis là, ils sont rendus à 1 contre 13. 1 contre 13, ça veut dire qu'un homme devait en tuer 13 autres pour attaquer les Madianites. Pourquoi est-ce que Dieu a jugé que le peuple était trop nombreux? Oui. Oui. 1 contre 4, Dieu a dit, vous allez tirer la gloire de cette bataille-là. Si vous gagnez, vous allez prendre toute la gloire. Et quel était le danger de leur laisser cette illusion-là? C'était quoi le danger de laisser l'illusion au peuple que c'était à cause d'eux qui s'éloignent encore plus? Oui. C'est ça. Ils comptent sur leur propre force. Oui. Ça les aurait pas plus ramenés s'ils s'étaient centrés sur eux-mêmes puis gonflés le torse puis hey, on est bon. 1 contre 4, on les a battus. Le problème n'aurait pas été réglé. Le bobo de surface, c'est un bobo dur, là. Les Madianites qui sont là, le bobo de surface aurait resté là. Ben, il l'aurait éliminé dans un sens. Il aurait eu la victoire. Mais le mal qui ronge à l'intérieur du peuple d'Israël serait resté, qui est l'abandon de la foi. Puis Dieu a dit non. Vous êtes trop encore. 1 contre 4, c'est trop. Puis vous allez descendre à 1 contre 13. Et le but n'était pas simplement de donner la victoire, comme je disais tantôt, mais Dieu voulait leur apprendre à revenir à la foi, à revenir, que tout Israël voit cette armée-là qui sont rendus 1 contre 13, à dire Dieu fallait qu'il soit avec eux, parce que c'est humainement impossible. Et Dieu a dit à Gédéon, tous ceux qui ont peur, qu'ils s'en aillent. Pourquoi ceux qui ont peur? Pourquoi est-ce que Dieu rejette ceux qui ont peur? Pourtant, c'était des gens qui étaient volontaires. OK? Mais Gédéon, il a dit que tous ceux qui ont peur, là, retournez à la maison, on n'a pas besoin de vous autres. Manque de foi, découragé, probablement des gens contrôlés par la peur. Un point qu'ils ont pas la confiance, parce qu'on va voir Gédéon, il avait probablement peur lui aussi, on va le voir un petit peu plus loin, sauf qu'il n'était pas contrôlé par la peur. Et peut-être était là la différence aussi. Oui, Mylène. La gloire de Dieu qui a été manifestée par notre foi. Oui? OK. Bien, on va continuer d'avancer. Puis si ça ne s'est pas éclairci avec le temps, tu me le diras. Quelqu'un qui veut me lire rapidement Deutéronome 20, verset 8. Un volontaire? OK, Naomi. Oui. Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. C'est déjà dans la loi. Moïse avait dit, Dieu l'avait dit à Moïse, ben les officiers vont parler quand ça va être le temps d'aller au front, là, mais que ceux qui ont peur, les officiers vont dire ça, mais qu'ils s'en aillent, pour pas que les frères commencent à avoir peur eux autres aussi, puis d'avoir ce contrôle par la peur, et que ça va devenir finalement, ça va s'influencer. Alors que tous ceux qui ont peur s'en aillent, 22 000. 22 000 sont partis. On continue, verset 4. À 8 de chapitre 7. Juges 7, 4 à 8. Un autre volontaire qui voudrait lire ça? OK, Richard. OK. On est rendu à 300. Pourquoi est-ce que Dieu trouvait que tu es trop nombreux encore? 10 000? 10 000 contre 135 000. C'était pas beaucoup. Mais pourquoi est-ce que Dieu trouve que c'est encore trop? Oui, Norman. Ouais. Moi, spontanément, il me vient une autre question. Si Dieu a trouvé que c'était trop nombreux, 10 000 contre 135 000, qu'est-ce que ça révèle du cœur d'homme, de l'homme? Qu'est-ce que ça révèle de notre cœur? Le cœur est croche, on s'enorgueillit facilement. Imaginez, 10 000 contre 135 000 hommes, ils auraient même pu en venir qu'à croire que c'est à cause de leur science, de leur stratégie militaire, parce qu'ils sont forts. Et Dieu veut pas, il veut pas encore que l'homme s'enorgueillisse à ce point-là. Oui, Claudette, après ça, Mylène. Oui, oui, peut-être aussi, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dieu n'a pas voulu prendre de chance. Et il a dit non, on va diminuer ça à 300, comme on disait, pour que ça soit tellement évident que la gloire va aller uniquement à Dieu. Ça va tellement être évident. Dieu va être glorifié. Puis c'est une belle chose, puis c'est une bonne chose. Puis on doit être content d'y participer que de glorifier Dieu. Et quand que Dieu est glorifié, quand la gloire de Dieu est éclatée au milieu d'Israël, mais le peuple était dans la joie, était content aussi, et le retour à la foi était vrai, était vivant aussi. Mylène, on va avancer rapidement parce que il y a le temps déjà avancé. Oui, Mylène. Ouais. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Dieu aurait pu s'occuper de tout seul. Puis Dieu a utilisé Gédéon. Dieu a utilisé 300 hommes. Dieu utilise les choses viles et folles de ce monde pour confondre les sages, pour confondre les grands, les orgueilleux. Puis Dieu, par des choses faibles, est allé détruire un peuple très nombreux. Nombreux comme le sable de la mer qu'on va voir. Dieu veut nous utiliser. Je pense que ça témoigne beaucoup du caractère de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain dans le ciel qui opère son échiquier comme il veut, mais il nous utilise, il nous implique dans son œuvre. Il veut nous faire avancer et de participer. Imaginez ces 300 hommes, imaginez Gédéon, comment était rendue sa relation avec Dieu à la fin de ces événements-là, comparativement au début quand Dieu est apparu puis lui a dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Et il doutait fortement, mais à la fin, on voit que Gédéon est content d'avoir participé à l'œuvre de Dieu. Et c'est pas seulement Gédéon qui est revenu à la foi, mais tout Israël va revenir aussi à la foi. Mais Dieu utilise des choses faibles et nous utilise aussi. Puis c'est encore la déclaration que Dieu avait dit à Gédéon, « Va avec la force que tu as. » Et 300 hommes, « Va aller avec la force que vous avez. » C'est pas beaucoup, mais je m'occupe de le donner. Oui, M. Dumont. Oui, absolument. Oui. C'est ça. Oui, exactement, c'est ça. C'est du direct. Oui, Normande, puis après ça, on va fermer la boucle pour l'instant. Ouais. Ouais. Ouais, le témoignage devait se répandre, certainement. Un peu comme on voit dans Daniel aussi, que tous les peuples de la terre sachent que c'est l'Éternel qui règne dans le ciel. C'est ce que Nebuchadnezzar avait dit, témoigner. Et c'est un témoignage qui va s'étendre aussi sur les autres peuples. Le témoignage de l'Éternel se répand autour de la terre à cause de sa gloire qui éclate comme ça, à travers notre faiblesse. À travers notre faiblesse, qu'on est des vases d'argile, mais Dieu a placé un trésor en dedans de nous. Dieu a placé une grande puissance sur son peuple. Avec la force qu'ils avaient, puis c'était pas beaucoup. Dieu avait déjà promis, je vais vous montrer, ça ressemble à quoi? Ils étaient 10 000 contre 135 000. Maintenant, on réduit les effectifs. Puis on est rendu 1 contre 450. Attends, je vais tourner mon petit carré. 1 contre 450. Et ça ressemble à ça, à peu près, le ratio. C'était évident, ça allait devenir évident que Dieu allait donner la allait recevoir la gloire à cause de ce petit nombre qui est là et qui, par leur propre force, ne seront jamais capables de tuer l'armée des Madianites au grand complet. Dieu l'avait déjà promis dans Lévitique 26:8, je fais juste le citer, là, je fais juste vous le dire, mais Dieu avait déjà promis que un en poursuivrait mille. Dieu l'avait déjà dit. Et on le voit s'accomplir, du moins c'est un pour 450. Jusqu'à présent, la confiance de Gédéon tient le coup. Vous savez, ce qui m'impressionne de Gédéon, si on revient à notre personnage, c'est qu'il diminue les effectifs comme que Dieu lui demande. Il le fait. Il ne me demande plus de signes à ce point-là, mais humainement, ça pourrait être fou que de diminuer les effectifs. Mais dans la sagesse de Dieu, Dieu opère toutes choses, et Gédéon est à un point de dire, Dieu, ce que tu fais, c'est parce que tu fais la bonne chose. Et je continue. Et on voit pas Gédéon rouspéter du tout. On voit qu'il fait ce que Dieu lui demande. Et ils emmènent les hommes boire sur le bord de l'eau. Et puis il y a des hommes là-dedans qui ont peut-être tellement soif qu'ils vont se plonger la tête dans l'eau puis qu'ils vont commencer à boire. Comparativement à peut-être 300 hommes qui étaient encore peut-être sur leur garde, qui étaient attentifs, qui étaient encore à regarder encore à l'horizon puis préféraient amener l'eau à leur bouche, puis la laper comme ça pour continuer d'être vigilants, contrairement à une gang qui se sont plongés la tête dans l'eau. Je sais pas, je le vois un petit peu comme ça, mais Dieu a gardé 300 hommes. Ouais. C'est ça. C'est ça. La soif était peut-être tellement grande qu'ils étaient prêts à souffrir encore un petit peu de la soif, calmer la soif plus lentement, mais continuer d'être attentifs. Mais ils ont lapé l'eau. C'est comme ça que Dieu les a choisis. Peut-être ils étaient beaucoup moins nombreux. Mais il en est resté 300. On voit à la fin du verset 8, le peuple s'en va. Ils ont pris les vivres du peuple, les trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Dieu, avec la pression sur le charbon, il y a des diamants qui se produisent. Dieu permet des fois qu'on ait de la pression dans nos vies pour qu'il transforme notre foi, pour qu'elle devienne ferme, qu'elle devienne dure. Et c'est l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Et Dieu est en train de travailler le cœur du bobo qui était l'abandon de l'Éternel. Et est en train de les ramener à eux, puis est en train de diminuer les effectifs pour que les hommes n'aient pas d'autre choix que de s'accrocher à Dieu. Il n'y a pas d'autre choix que de s'accrocher à Dieu. On arrête là. Je pense qu'il y a beaucoup d'encouragement pour nos propres vies de continuer d'avancer pour Dieu, de continuer de manifester la foi que Dieu veut que l'on ait, de croire à la révélation que Dieu nous donne aussi, à la parole de Dieu. Dans la suite de l'histoire, il y a des perles à tirer en ce qui concerne l'impact de la révélation de Dieu dans la vie des hommes. Mais que ça va être vrai aussi pour nos vies. Puis on continuera dimanche soir prochain. Je termine par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci encore pour ta parole. Merci de cet exemple de Gédéon. Seigneur, où est-ce qu'on voit que t'as pas perdu le contrôle, Seigneur, de la situation et au contraire, tu as voulu guérir, Seigneur, le problème qui était du peuple d'avoir abandonné la foi. Seigneur, nous, de notre côté, on n'est pas de ceux qui abandonnent la foi, mais de ceux qui marchent pour toi, de ceux qui persévèrent, Seigneur. On veut continuer d'avancer, continuer de développer notre relation avec toi. Dans notre ton Fils, qu'on te prie. Amen.